Bonjour et bienvenue dans Mission Comics, un podcast qui parle de comics et de leurs histoires. Aujourd'hui, le Joker combat double face pour savoir qui est le meilleur criminel de Gotham. Bref, votre mission, si vous l'acceptez, est de parler de The Joker numéro 1 sorti en 1975. Mais pour réussir cette mission, vous ne serez pas seul puisque vous serez accompagné de Wolf in Motion. Bonjour Wolf.
Bonjour SN.
Ça va ?
Ça va très bien, et toi ?
Bah oui, écoute, je trouve toujours ta voix très très cool et donc je suis toujours ravi de l'entendre.
Merci bien, c'est un plaisir d'être avec toi.
Bah cool. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu, au cas où des gens ne te connaîtraient pas ?
Alors, je m'appelle Wolf, de la chaîne Wolf in Motion. Sur cette chaîne YouTube, je vous parle de comics, que ce soit en faisant des reviews plus courtes, de la présentation de l'univers Marvel avec les Marvel Encyclopédies, ou bien aussi de la review de séries animées avec les Cartoon in Motion.
Tout à fait.
Et je fais ça depuis quelques années.
Oui, on peut dire ça, puisqu'on a... Bon, ça fait à peu près le même temps qu'on fait ça,
je crois.
Chacun de notre côté. Donc grossièrement, ça va faire, on est à plus de 6 ans. Hein.
Je crois, oui, hélas.
C'est ça.
On devient des vieux de YouTube.
Oui, bah oui, c'est ça. How you do, fellow kids. Voilà, tu as apparu aussi des fois dans quelques podcasts, de temps en temps.
Oui.
Et souvent avec moi.
Tout à
parce
fait.
Parce que c'est souvent moi qui t'invite. Voilà. Donc tu m'avais déjà fait l'honneur en fait d'ouvrir en fait ce qui a servi en fait d'émission test pour ce podcast, qui était un calendrier de l'Avent l'année dernière. Et donc, comme tu m'avais porté bonheur, et je te fais revenir pour la première émission.
Et j'espère que ça en sera pas de même.
Bah oui. Bon, s'il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Surtout que là, on va parler donc d'un titre assez sympa, puisqu'on va parler d'un titre avec un clown. C'est gentil, les clowns. Ça peut pas nous faire de
oui,
mal.
Oui, tout à fait. Hein. Demande à Stephen King.
Ouais, non, il me fait peur, celui-là.
Tu préfères McDonald's ?
Ouais, il me fait peur, mais pas pour les mêmes raisons.
Il fait peur à ton diabète, lui aussi.
C'est ça. Il fait peur à mon IMC. non, puisque du coup, on va parler du clown le plus connu des comics. Je ne parle pas du Violator de Spawn, je parle du Joker.
Et oui.
Mon vieil ennemi de Batou. Et on va remonter un peu loin dans le temps, mine de rien, puisqu'on va remonter jusqu'en 1975.
On n'était même pas nés.
Ouais, non, clairement pas, non. Moi, j'étais loin, je pense toi aussi.
Oh oui, oui.
Et c'est la toute première série donc, consacrée au Joker. C'est aussi l'une des toutes premières séries consacrées à un vilain depuis très 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 longtemps.
Ouais.
Puisque la dernière série vraiment consacrée à un vilain, ça s'appelait Yellow Claw, ou la griffe jaune. C'était dans les années 50 et c'était Jack Kirby. Et ça a duré que 4 numéros.
C'est tout jeune quoi.
Donc autant te dire que on est sur un titre qui est un peu attendu au tournant, mine de rien. Et comme il y a une autre série qui s'appelle The Joker qui sort actuellement, je t'avais proposé ce thème-là et apparemment ça t'a bien plu. Mais j'aimerais quand même vérifier.
Coïncidence.
Je ne pense pas. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé à peu près, ouais, de ce numéro ?
Moi, l'univers DC, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup de lacunes. Surtout sur l'ancien univers DC. Parce que j'avais commencé avec No Man's Land et j'ai vraiment commencé à suivre vraiment avec le New 52. Donc autant dire que les années 70 de DC, c'est pas vraiment la période que je connais le plus. Visuellement, oui, parce que c'est des trucs que tu retrouves très facilement sur plein de packaging, de cahiers, de sacs, de trucs. Parce que c'est
ils sont forts pour ça.
C'est l'aspect très loufoque des années 70. Mais du coup, c'était quelque chose qui m'intéressait parce que du coup, ça allait me faire découvrir tout un pan de cet univers que j'ai jamais pris le temps vraiment de lire. Puis qui n'est pas forcément très facile à trouver aussi en VF.
Ah, en VF, oui, très compliqué. Oui.
Voilà. Donc bon, j'ai eu la chance de pouvoir trouver le TPVO et du coup, voilà, The Joker.
Yeah. Oui, parce qu'il y a un TP qui est vachement cool qui s'appelle juste Joker the Prince of Crime.
Oui.
Voilà.
Et pour la petite histoire, on était censé lire juste l'épisode 1 et j'ai pas réussi à m'arrêter. J'ai enchaîné tous les épisodes.
C'est ça. C'est une série qui fait 10 épisodes, donc c'est vrai qu'elle est assez courte, mais elle a un petit charme. Et je suis content du coup que t'aies apprécié au point que t'aies tout lu. Parce que c'est une série qui est super sympa, qui pour le coup va se la jouer un peu pour les connaisseurs Brave and the Bold. C'est-à-dire qu'on est sur une série où chaque épisode, ça va être le personnage principal, donc ici le Joker, qui va faire équipe avec, faire équipe ou être en opposition avec un autre personnage. Voilà. Dans Brave and the Bold, c'est Batman. Ici, c'est le Joker.
Et même un peu plus que ça, si je peux me permettre.
Vas-y.
En fait, très vite, dès le premier numéro, en fait, tu te rends compte qu'il y a une formule qui se met en place. C'est que forcément, il va soit coopérer, soit être en confrontation avec quelqu'un, mais ça va toujours être la même structure, c'est-à-dire, à la fin, il faut que le Joker perde et se retrouve enfermé. Tué, ouais, enfermé, ouais. Diminué...
C'est ça. Et ça, c'est quelque chose dont je pense qu'on va reparler à la toute fin, je pense. Ouais. Je te parlerai de cette formule peut-être plus en détail.
D'accord.
Si, voilà, je t'expliquerai pourquoi c'est comme ça. Pourquoi il ne peut pas gagner. Pas à cette époque, il n'a pas le droit.
Ah ben oui.
Voilà. Je te propose qu'on attaque de suite le gros du sujet finalement et qu'on commence à raconter l'histoire.
Ok.
Et peut-être qu'on pourrait commencer par la couverture qui est assez classe.
Ah oui.
Je sais pas ce que tu en dis.
Moi j'ai beaucoup aimé le style, déjà très très rétro, avec ces personnages aux formes exagérées et puis ce Joker hyper menaçant au milieu de plein de personnages iconiques. Même si j'avoue que la dame à gauche me laisse un petit peu...
C'est Catwoman.
C'est un ancien costume de Catwoman, ça ?
Ouais.
D'accord. Ah, parce que dans les épisodes plus loin, elle apparaît, mais pas du tout avec ce costume, donc...
C'est ça. Mais non, d'accord. En fait, c'est un peu les plus grands, donc t'as Catwoman, double face, oui, mystère, oui, et le pingouin.
C'est ce que je me disais un peu, mais bon, ouais. D'accord, ok. Ouais. Donc oui, donc on retrouve vraiment ce look qui fait très à Batman 66, un peu... Surtout pour le pingouin Enigma.
Le Joker aussi.
Et le Joker aussi, oui. C'est vrai qu'il ressemble beaucoup à l'acteur.
C'est ça. Et il y a juste la moustache qu'on ne voit pas. C'est...
Il a beaucoup plus mis de maquillage, c'est pour ça. Et ouais. Donc, on voit le Joker qui décide de déchirer ce poster de Batou. Parce que ce magazine appartient à l'ennemi numéro 1 de Batman. C'est-à-dire
et c'est moi.
C'est ça. Et de toute façon, c'est un petit peu le moteur qui va pousser Joker dans l'histoire, puisque c'est quand même beaucoup la jalousie et son ego qui va être le moteur, en tout cas dans cette première histoire.
Ça donne vraiment le ton de la série.
C'est ça. Et justement, cette histoire commence donc sur une pleine page. Et du coup, on vient d'entrer donc dans l'asile d'Arkham, un asile d'Arkham qui est encore un peu tout neuf à l'époque. Hein. Mm-hmm. Parce que l'asile d'Arkham existe depuis seulement un an. Il est apparu en 1974. On l'appelle encore le Elizabeth Arkham Asylum.
Ah oui.
Et du coup, on voit un être un peu étrange qui parle espagnol, très clairement, puisqu'on y parle de Seigneur Joker, et qui fait évader Double Face, mais pas le Joker, et parce qu'il cherche un vrai maître du crime. Et donc, il prend Double Face et pas le Joker.
D'ailleurs, Alvarez, qu'on dirait tout droit sorti d'un épisode de Zorro.
Oui.
Ça m'a vraiment fait penser au costume de Don Diego.
Oui, il fallait montrer qu'il était un peu...
Hispanisant, oui. Voilà.
Donc on voit vraiment donc Double Face qui s'échappe et le Joker qui reste en prison. Et donc, on voit les gardes qui sortent d'une pièce où, apparemment, il y a eu du gaz qui a été lancé. Et le Joker, vraiment, il est dur avec les gardes, je trouve.
Oui, il le prend vraiment mal, quoi.
Ah ouais. Tu vois, genre, vous êtes là à déblatérer des insanités alors que je souffre d'une insulte intolérable. Ce genre de choses. Et un peu avec ce ton-là, fine de rien. Puisqu'à un moment même il se met à citer du Cyrano de Bergerac quand même.
Que bien sûr les gardes n'arrivent pas à deviner.
Tu vois pas ça chez le Joker tous les jours?
Ah oui, tu vois que malgré tout c'est un homme cultivé.
Oui, c'est ça. On n'est pas sur le Joker New 52, tu sais, qui s'arrache le visage là.
Ah non.
Mais du coup, surtout le Joker il est pas content parce que parce que l'autre, il a dit que Double Face, c'était un meilleur criminel que lui. Enfin, c'est absurde.
Ah, l'ego.
Et du coup, le Joker va faire un plan pour s'échapper. Et j'avoue que j'aime particulièrement ce plan. Est-ce que tu peux nous en parler?
Alors, le Joker profite de son moment d'exercice dans la cour, qui est fort bien trouvé, hein, une cour au beau milieu de, sur les toits, au beau milieu de l'asile. Hein. Tu viens avec un hélicoptère, en 5 secondes, ça. Tu peux avoir être parti avec la personne, hein, c'est bien protégé.
Écoute, l'asile d'Arkham a une réputation à tenir en tant que gruyère, et dès le début, ça a été le cas.
Ah bah oui.
Dès le début, c'était un gruyère.
Et donc notre cher Joker est en plein gonflage de ballons. Mm.
Tout à fait.
Il gonfle ses ballons que lui ont offert des enfants, que lui ont offert des organismes de charité. Et on peut le voir de se mettre à gonfler de plus en plus le ballon, et le ballon devient énorme. Et bien sûr, en fait, il était en train de gonfler avec de l'hélium, et il s'enfuit en se tenant au ballon, dans le truc le plus guignolesque possible. Bien sûr, les gardes décident d'utiliser leurs armes pour tirer sur le ballon.
C'est le Joker, c'est le clown prince du crime.
Sauf que voilà, le Joker a remplacé les pistolets des gardes par son fameux pistolet avec le petit drapeau avec son visage. Et du coup, c'est il peut s'enfuir dans Gotham tranquillement avec son ballon.
C'est ça. Et puis surtout, on arrive donc dans le fameux lieu commun des comics de l'époque. C'est « Ah tiens, il se passe quelque chose. » Ça doit être une pub. c'est un truc à l'époque, ce soit Marvel, DC ou autre. Tu retrouves ça partout.
Tu dois te dire que aux États-Unis, ça devait arriver souvent, donc les happenings publicitaires.
Ah ouais, non, je veux savoir ce qui se passait à l'époque, quoi. Tu vois, ça devait être dingue. Et en tout cas, donc il arrive à côté d'un gamin qui vend des journaux. Et le gamin déjà se dit, oh, on dirait le Joker.
C'est marrant.
Et du coup, le Joker se rend compte, que Batman, il n'est pas ici, puisque le Batman, il est à un congrès d'Interpol à Paris.
Ça tombe bien.
Ah oui. Ah ça tombe bien alors. Et donc du coup, je sais pas trop comment, mais juste après, il a réussi à recruter des hommes de main. Je sais pas, il y a toujours des gens pour servir d'hommes de main, c'est fou.
Le pôle emploi des hommes de main. ne comptez jamais sans lui.
Et donc du coup, il commence à lui passer un peu de pommade, on va dire. S'ils sont là, oui, vous êtes le plus fort, patron, tout ça. Et du coup, il commence à faire un plan. Et est-ce que tu peux nous dire à peu près à quoi va ressembler ce plan pour faire chier finalement Double Face et ce Señor Alvarez?
Il a déjà envoyé ses hommes pour se renseigner, pour savoir où était Alvarez et où était Double Face. Mm-hmm. Ils se rendent compte qu'en fait... Ils ont occupé tout un étage d'un hôtel. Deux étages d'un hôtel. Et qu'ils ont des hommes armés jusqu'aux dents de partout. Et donc, le Joker, lui, mm-hmm. n'en est que plus heureux parce que ça lui fera un challenge de dingue. Et que voilà, il pourra montrer qu'il est donc supérieur à tout ce petit monde.
Ouais. Et donc, du coup, pendant ce temps-là, donc, on passe à l'hôtel. Et du coup, Double Face, il est là, tu m'as fait sortir de là, pourquoi, finalement? Et ce serait pour faire un vol. Donc c'est un vol qui viendrait de son pays, donc d'Alvarez. Donc, c'est pour ça qu'on peut considérer sans doute qu'il est espagnol, puisque il va falloir récupérer 10 pièces d'or des doublons espagnols. Et donc ça marche très bien pour Double Face, puisque c'est des doublons. Par contre, j'ai pas très bien compris l'idée de doublon avec des doubles faces. Je veux dire, toute pièce est forcément à deux faces.
A priori, c'est qu'ils doivent avoir visages des deux côtés, peut-être. Et face nous fait son fameux tic du lancement de la pièce. Et c'est d'accord, je t'aiderai.
C'est ça, parce que c'est le côté maléfique de la pièce qui a gagné, le côté abîmé. Et du coup, tout d'un coup, patapou patatras, il y a quelqu'un à la porte.
Non, mais ça doit être le service d'étage.
C'est ça, ce serait le repas. Je parie que cette nourriture va être une grande surprise.
Ah oui.
Ouais, c'est le Joker qui en sort. Et c'est une grosse tarte à la crème, mais tarte à la crème à l'acide.
que tous les hommes de main se prennent dans la tête. Sauf Double Face.
C'est ça. Finalement, le seul qui se prend pas d'acide, c'est Double Face, mais il a déjà été servi il y a longtemps, on va dire.
Mais lui, il se permet de bien donner les bonnes poires à tout le monde. Même au Joker, hein, en plein dans la face. Mais monsieur décide de s'enfuir en laissant tout le monde comme ça.
C'est ça. Et surtout, il l'attaque du coup avec des poires. Et comme le Joker le fait remarquer, en anglais, des poires, ça se dit « peers », comme dans une paire, comme dans deux. Parce que, même quand il est acculé et qu'il doit juste s'échapper et tout ça, il fait quand même des trucs en rapport avec le chiffre 2. Ça s'appelle franchement une... Il est overmaniaque pour le coup. Ça se trouve, il préfère des pommes, il mange juste des poires juste pour ça.
on sait déjà quelle est la friandise préférée de Double Face. Hein.
Ouais, j'irais sur le Twix, ouais.
Oui, de doigts coupés fins.
C'est ça. Le Joker, c'est une plaisanterie qu'il ne goûte que guère, finalement. Puisqu'il décide d'essayer de le rattraper avec ses hommes de main. Parce que, merde, c'est moi le maître des criminels. Et donc, il se dit, je connais Double Face. Je peux l'anticiper, il est facile à anticiper, il faut que ce soit deux. Demain, on est le 2 de ce mois-ci. Donc on sait qu'il va faire son move, son coup à ce moment-là. Du coup, il l'attend un petit peu, mais il s'est gouré. Il s'est gouré puisque je crois que Double Face a en fait décidé de le faire maintenant.
Eh oui, parce qu'en fait, il est 2h du matin, donc ça lui suffit. Et du coup, il peut mettre la main sur le Joker... Le passer à tabac encore une petite fois, hein, des fois qu'il n'aurait pas mangé assez cher.
Le passer à tabac en donnant deux coups de poing.
Oui, c'est vrai, deux. J'avais pas compté, oui, c'est vrai.
Si, one, two. Ah non, mais c'est tout le temps, deux, c'est la règle. Et du coup, ouais, il l'attache pour le coup dans un piège mortel que le Joker finalement ferait lui-même en fait. Puisqu'il est attaché donc à une planche en bois et avec donc la scie qui s'apprête à découper la planche en bois et lui qui va aller tout doucement vers la scie. Enfin voilà, il manque plus que James Bond et on est dans le thème finalement.
Et comme tout bon méchant, il ne peut pas rester. Il faut forcément qu'il s'en aille parce qu'il a mieux à faire.
C'est ça. Mais on note quand même qu'il a. Il jette quand même la pièce parce que si ça se trouve, il n'allait pas le faire. Mais c'est Double Face, il laisse comme toujours le hasard le faire. Et la pièce tombe encore une fois sur le côté maléfique. Ça fait deux fois quand même dans la même histoire. Donc normalement, les probas commencent à descendre.
Hein. Ah oui.
Et le Joker, il essaye de s'en sortir en parlant. Il dit, là, qu'est-ce que t'es en train de faire? Je veux dire, normalement, tu fais des trucs avec du 2. Faut que ce soit par paire. Qu'est-ce qui se passe là? Et juste son truc, c'est, tu vas être coupé en deux.
Voilà. Ce qui marche bien.
C'est ça. Mais le Joker, il trouve ça vraiment pas original. Et du coup, le Joker, il a une petite chose assez intéressante pour s'en sortir, n'est-ce pas?
Oui, c'est que à force d'avoir vu notre cher détective de Gotham se sortir de la situation 350 fois, il en a appris quelques petites leçons et donc il utilise sa fameuse fleur qu'il a toujours sur sa veste pour balancer un peu d'acide sur la corde et pouvoir se libérer pile poil au bon moment.
Et donc du coup, en fait, on voit le Joker s'échapper comme le ferait Batman. Ça me plaît. Et c'est vrai qu'il s'en va vraiment juste au dernier moment. Et donc du coup, il décide de continuer forcément à aller attaquer Double Face, tout en faisant des jeux de mots, malheureusement, que je ne saurais traduire. En parlant de la scie, en disant « saut », et du coup, qui va aller lui rendre visite, qui va aller le voir, en fait. Enfin, voilà. On est sur du jeu de mots que je ne saurais pas traduire.
Moi non plus.
Et du coup, on se retrouve donc à ce musée où seraient donc les fameux doublons espagnols, et on retrouve une tête connue.
Jim Gordon.
Et oui, qui du coup est en train de nous expliquer comment la police de Gotham va tout simplement assurer la sécurité. Que du coup, donc ça c'est mes meilleurs hommes, hein, c'est les meilleurs juste après Batman. Et toujours. Et du coup, donc, il explique qu'il y a une alarme, que ces hommes y partiront pas du tout, que l'alarme est fermera toutes les issues, que ça attirera du renfort. Et enfin voilà, personne s'en ira, personne pourra s'approcher, donc normalement, voilà, il y aura pas de problème. Quand tout un coup, que se passe-t-il ?
Il y a un problème.
Ah bon ? Mince, je suis étonné.
Mince ! On est dans le noir ! Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Oh mais on est tous là ! Mais vous inquiétez pas, il peut pas arriver !
Il ne peut plus rien nous arriver d'affre maintenant.
Et quelques minutes plus tard, la lumière revient. Et, ah ben vous avez raison en fait, ben ouais, il n'y a rien qui s'est passé de grave. Hein. Oh ben non, mais tout est là, vous voyez. Hein. Quand la police de Gotham, elle est là, quand elle vous promet de vous protéger, eh ben elle vous protège. C'est et ça. T'as envie de dire, oh mon Dieu, James, t'es pas très doué. Hein.
Et gardien de la paix avant tout.
Voilà.
Puisque eh bien, les doublons sont déjà volés par Double Face, qui en fait a utilisé un espèce donc, de dément en fait, du toit du dessous. Donc il est au second étage.
Ouais.
Et donc il fait descendre l'aimant, il récupère la caisse avec des doublons et il les remplace donc par des faux, parce que forcément on trouve toujours des faux doublons un peu partout, hein, des fois qu'on ait un casse à préparer, des choses comme ça.
Et bien sûr il n'a fait aucun bruit, bien sûr il n'y avait pas de vitre sur le dessus, bien sûr il n'y avait rien de tout ça. Et puis quand il les a déposés, c'était tout doucement, il contrôle l'aimant super facilement.
Bah ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux ? C'est Double Face, et puis voilà. en face, c'est la police de Gotham aussi. C'est les meilleurs, mais après Batman. Voilà, voilà. Et donc, du coup, bah, finalement, il s'en va sans problème, Double Face. Hein. Et donc, il rentre un petit peu chez lui, et là, il y a quelqu'un qui l'attend.
Et là, bah, il tombe nez à nez avec notre ami le Joker. Et bien sûr, il est étonné de se dire « Oh, mais tu as survécu ! Comme tous ces méchants, comme tous ces gentils que j'essaye de tuer à chaque fois, comment faites-vous ?»
C'est ça. Et bien sûr, le Joker, il savait qu'il allait faire son coup depuis le deuxième étage.
Hein.
Voilà, forcément. Voilà, forcément, Double Face donc essaye de réassommer le Joker. Le Joker lui dit « Tu m'as déjà eu une fois à l'hôtel, tu peux pas espérer m'avoir deux fois ?» Non, attends, qu'est-ce que je raconte ? Bien sûr que tu penses m'avoir deux fois. Et donc voilà, et c'est là que le Joker fait, je trouve, un coup que j'ai pas vu venir et qui est sans doute le truc le plus what the fuck de cette histoire. Il l'attaque avec ses cheveux.
Oui, ça m'a super étonné, ça, tu vois. Je l'avais jamais vu faire ça.
Moi non plus, je sais pas, ils avaient envie de...
Et on apprend que donc c'est des faux cheveux.
Et qui peut balancer à la gueule des gens, je sais pas. C'est le truc le plus incroyable de cette histoire.
Et puis, pas mal humiliant aussi.
Oui, c'est
après,
ça.
Après, il s'amuse en plus à lui mettre plein de petites claques.
C'est ça.
Juste pour continuer à l'humilier. Et on arrive au vrai problème du truc, c'est que les deux pensent être l'égal de Batman.
C'est donc, ça. Et que l'autre ne veut rien. Puisque
bah oui,
bah,
oui.
On a déjà vu le Joker très clairement le dire, mais là, c'est vraiment Batman est mon égal, mais toi, t'es un bouffon et je veux te briser. C'est Bane avant l'heure.
Sauf que voilà, notre Double Face a fait une erreur. Il a chopé le Joker par sa veste. Et du coup, il reste collé à la veste, comme sur du papier à mouche.
Et du coup, il essaye de lui faire un petit peu une espèce de prise de judo, on pourrait dire. En tout cas, il se renverse en tenant le Joker. Et les deux, en fait, tout simplement, tombent assommés en gros, en se prenant un coup sur la tête, en retombant, quoi.
Mm-hmm.
C'est un peu anticlimatique, mais j'aime bien la case où ils sont tous les deux, couchés. Je la trouve particulièrement bien dessinée.
Ouais.
Du coup, tu vois, j'accepte.
Et du coup, le pire, c'est quand même que les gardes les trouvent.
Oui.
Mais le jour d'après. Donc ils sont restés assommés, je ne sais pas combien d'heures. Et personne n'a rien entendu. Et c'est le jour d'après que les gardes, ils font « Eh tiens, qu'est-ce qui se passe dans ce coin du musée ? Ah bah tiens, on a trouvé des gens de chez Arkham, on va peut-être les ramener chez eux. »
C'est ça. Et d'ailleurs, tu notes que ce bon serviteur de la loi s'appelle Phil. Et je trouve que sa tête, ça peut marcher pour rétrophile. Je sais pas ce que tu en dis.
Un peu, oui.
Mais voilà. Ça m'avait fait rigoler à la lecture aussi, ça.
Un petit peu, oui, un petit air.
Et donc, du coup, bah, forcément, et... c'est ça. Donc, on a Double Face et le Joker qui se font choper et qui vont être envoyés donc, à l'asile d'Arkham. Et Double Face, il est quand même un peu étonné parce que bah, vous reprenez pas les doublons, là. Et on apprend un petit peu la morale, finalement, la toute fin de l'histoire. Je te laisse la dire, mon très cher.
Eh bien, on apprend qu'en fait, c'est des contrefaçons. Que depuis le début, Batman avait appris que le seigneur Alvarez voulait les doublons. Et que donc, avant de quitter le pays, bah, Batman avait remplacé les doublons par défaut.
Voilà. Et du coup, bah, Alvarez, il est déjà en prison.
Ouais.
Il est à l'hôpital, il n'est pas mort. Donc, c'était juste des brûlures acides. Et du coup, le Joker rigole comme un fou, forcément. En disant que, eh bien, toi, tu t'es fait doubler. Et c'est la fin. Dans une jolie petite fin en forme de pique, puisque du coup, l'habillage bah, va sur le thème des cartes à jouer, puisque le Joker.
Logique.
Mm-mm. Donc voilà, c'est une petite histoire assez sympathique, mine de rien.
Oui.
Voilà. Non, très franchement, j'aime... Alors... Déjà, il faut voir aussi qui est un petit peu derrière. Forcément, tu te retrouves avec Denis O'Neill au scénario.
Ouais.
C'est pas n'importe qui. Et t'as Novik et Giordano au dessin, qui sont pas des manchots.
Ça rend plutôt bien.
Ils s'en sortent bien.
J'avoue que j'ai beaucoup apprécié l'aspect graphique. Parce que déjà, tu as ce Joker qui est vraiment tout en... longiligne avec un menton énorme, difforme, un côté qu'en fait on n'a plus vraiment dans les comics, vu qu'au final le Joker, tu le vois de dos, tu vois pas les couleurs, tu dirais pas que c'est le Joker, quoi. Tandis que là, vraiment, tu le repères de loin, quoi.
Ah bah, et puis, déjà et puis surtout, les cheveux comme ça, vert, enfin tout. Et, ça...
et surtout, Double Face, je trouve que Double Face, ils arrivent à le faire super charismatique, sans forcément jouer trop sur le côté défiguré. Et en fait, si tu regardes sur la plupart des cases, soit on te le montre de côté, de profil, mais son profil qui est toujours intact, soit on te le montre de trois quarts. On va pas te faire ces plans qu'on a tendance à te faire maintenant tout le temps, de le montrer vraiment de face, à te montrer vraiment le côté abîmé, décharné, limite un peu gore. Là, non, on te joue vraiment ce côté-là, en te montrant plus que le mec est vraiment un énorme caïd, quoi.
Mm-mm. Mais Double Face avait été, on va dire, réinventé assez récemment aussi. Et justement, c'est quelque chose qui a réussi à lui donner une vraie présence, en fait. Parce que sinon, en fait, Double Face, à la base, en fait, c'était un vilain qui était resté que quelques numéros pendant l'âge d'or, quoi.
Ouais.
Je veux dire, sa dernière apparition dans l'âge d'or, c'était 43.
Ah ouais.
Et à l'époque, en fait, Double Face, il avait à la fin eu en fait une opération chirurgique, et en fait, c'était sa troisième apparence et c'était la fin.
Ah ouais, d'accord.
Et il était revenu du côté du bien, techniquement, à cette époque-là. Et c'était assez étrange, d'ailleurs, les histoires de cette époque, puisqu'en fait, on était plus souvent sur Batman, en fait, qui essayait de sauver le couple de Double Face avec sa femme, en fait. C'était très rigolo. Mais du coup, ouais, le côté graphique est bien. T'as plusieurs scènes d'action. Enfin, T'as finalement des petits twists un peu tous les quatre pages.
Ouais, ouais, c'est plutôt... C'est punchy, t'as pas mal de gags visuels. Bon, comme à l'époque, t'as souvent des cases où t'as pas du tout de décor, mais quand t'as du décor, c'est de l'architecture bien travaillée. Mm-hmm. Je veux dire, quand tu vois Arkham, que ce soit le toit d'Arkham, c'est plutôt très travaillé. Pareil, les buildings dans Gotham, t'en vois quelques-uns, ouais. C'est vraiment très sympa. Les personnages ont vraiment, vraiment de la gueule.
Ouais, ils ont des expressions. Et ça, c'est mes passages préférés. Quand les personnages sont expressifs et tu vis avec eux, c'est trop bien. Et là, bon, bah, forcément, le Joker est expressif. Il est fait pour être expressif, mais les autres aussi, quoi.
Et puis, tu vois, même le costume du Joker, je trouve que sa queue de pie, on joue un petit peu avec, comme la cape de Batman à l'époque.
Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Du coup, elle est juste beaucoup plus petite, mais,
oui, voilà.
Mais ouais, non, c'est
mais
ça.
Elle est souvent en mouvement. on te la laisse très rarement statique. Ah, c'est vraiment très agréable.
C'est ça. Bah, c'est, comme je te dis, vraiment, les deux dans l'équipe artistique sont vraiment pas des manches.
Ouais. Et tu comprends pourquoi les couvertures ou les splash pages sont souvent réutilisées pour faire du merchandising et compagnie.
Clairement, ou par exemple, le truc pour ce podcast, par exemple, ce sera la vignette.
Bah oui, évidemment.
Bah, pourquoi se priver mais c'est vrai que oui, du coup, oui, t'as... Bah, surtout, DC est en train de changer un petit peu sa manière de faire, mais pendant très longtemps, en fait, à la fin des années 50 et pendant toutes les années 60, DC avait tendance à d'abord créer la couverture et ensuite à imaginer l'histoire. Et tu vois, ça reste encore un petit peu, même si là on commence à réfléchir à l'histoire un petit peu avant quand même. Mais forcément, ça a laissé cette habitude de la couverture est très importante, toujours. Enfin, c'est toujours un des points forts en fait, mine de rien.
Tiens, ça me rappellerait un podcast des GG Comics sur les couvertures sont tellement songères que j'ai écouté il y a pas longtemps.
Ah, c'est possible.
C'est possible. Voilà. Avec un certain SN Parod dedans qui nous parle des couvertures.
Ouais, bah, j'aime bien les couvertures. Non, mais c'est important, mine de rien.
Ah, mais je fais mes devoirs.
Je vois ça. Et donc, tu parlais en tout début d'émission d'une espèce de formule, puisque du coup, tu as lu les 10 numéros de cette série finalement assez courte, surtout pour l'époque.
Oui, tout à fait.
Et tu disais que dans cette formule, en fait, on avait l'impression que le Joker ne pouvait pas gagner.
Mais pourquoi, SN ?
Eh bien, la réponse est sur la couverture. Si tu regardes un petit peu à côté de Batman, tu verras un petit encart qui ressemble un peu à un timbre et qui est marqué « Approuvé par le Comics Code Autorité ». Et oui, donc comme toujours, donc cette forme d'autocensure, puisque le Comics Code est, je le rappelle, toujours fait par les éditeurs, c'est un groupement d'éditeurs qui s'en occupe. C'est une autocensure pour éviter une censure plus grande gouvernementale à l'époque et qui a duré très très longtemps. Je veux dire, DC a suivi le Comics Code techniquement jusqu'en 2010, je le rappelle. Et donc, du coup, il y a des petites choses dans le Comics Code qui font que si on suit le code à la lettre, le méchant, il doit pas être mis en position valorisante et il doit perdre à la fin de l'histoire. Il faut que la justice ait été faite. Donc si tu suis un titre sur un méchant, tu peux pas en fait finalement gagner en fait. Et je pense que c'est pour ça aussi au début en fait dans les premiers numéros il se fait tout le temps attraper. Et après ils essayent de changer un petit peu la formule.
Oui, ils assouplissent un petit peu les règles, je trouve. Ils font passer pour mort.
Ça doit être chiant à la fin, en fait, de tout le temps écrire le même truc, tu vois.
J'ai même vu sur Internet pas mal de personnes qui sous-entendaient que c'était certainement à cause de ces règles imposées que les créateurs, au bout d'un moment, se lasseront de faire la série et que la série finira par être annulée.
C'est très clairement une possibilité. Mais il y avait aussi le fait qu'ils avaient un peu de mal aussi à trouver forcément des idées. Et surtout, je pense que plutôt que le fait qu'il faut qu'il soit arrêté et tout ça, en fait, en tout cas, l'explication d'après Denis Onyil, donc là, je te reprends l'article de Back Issue, qui avait justement interviewé Denis Onyil, donc je te tire ça, c'est sa bouche. Et pour lui, c'était le problème, c'est en fait ce qu'on fait faire au Joker. C'est pas le fait qu'il se fasse attraper à la fin, puisqu'en fait il se fait attraper à la fin même dans les histoires de Batman.
Oui.
Non, c'est que en fait il peut être moins le Joker que d'habitude, parce que là c'est le personnage principal. Et donc t'as vu, il a attaqué des gens à l'acide, ils sont pas morts. Non, ils sont à l'hôpital.
Alors justement, dans les épisodes suivants.
Ouais, ça s'assouplit un petit peu.
Ça s'assouplit un peu. On utilise la fameuse technique du. On le tue, mais on le montre pas à l'image, on le dit simplement. Un petit peu la méthode Disney, tu sais, du « ouais, mais il est mort ».
C'est ça. Et du coup, son problème aussi, c'est que d'habitude, le Joker, tu suis son plan, mais de l'extérieur. t'as pas forcément de besoin d'expliquer ou de rationaliser, en fait. Tandis que là, en fait, le Joker, tu vas suivre le Joker et tu vas suivre, en fait, le Joker qui fait son plan. Ce qui veut dire que le Joker t'explique son plan, ce qui veut dire qu'il est rationnel.
Et pour ce faire, là, ils arrivent encore à trouver la petite pirouette, j'ai trouvé, c'est qu'en fait, ils utilisent les hommes de main du Joker.
C'est vrai.
Pour te jouer le coup du « mais je croyais que c'était ça le plan ». Bah non, mais le patron, il est un peu lunatique, donc il a certainement une autre idée en tête. Et oui, et t'as toujours le retournement de situation qui est « mais voilà, c'était ça le vrai plan du Joker, en fait ». Et du coup, ça marche très bien. Mais c'est vrai que quand on te le répète 4, 5 fois sur 9 numéros, hein, ça commence à devenir une méthode qui est un peu trop facile et trop criarde, quoi.
En tout cas, c'était ce que disait Denis O'Neill donc sur sa propre série. Même s'il n'a pas fait tous les épisodes, il en a quand même écrit pas mal.
Oui.
Et surtout, en fait, ça le gênait un petit peu parce que c'est pas pour rien qu'on a utilisé le Joker, en fait. Le Joker a toujours eu une cote de popularité assez grande. C'est le seul vilain avec le pingouin qui a toujours été là. Les autres ont existé une fois dans l'âge d'or, ont été largement oubliés et sont réapparus, en fait, au milieu des années 60. Sinon, en fait, Batman n'avait que deux vilains principaux, c'était le Joker et le pingouin.
Ok.
Mais le Joker a un sacré regain de popularité à l'époque. Et donc Denis O'Neill, en fait, qui a remis le personnage vraiment en tant que clown génocidaire dans un numéro qui est le numéro 251 de Batman, qui s'appelle The Joker's Five-Way Revenge, qui est considéré comme un classique encore aujourd'hui des histoires du Joker, et qui va faire revenir, en fait, tout l'intérêt autour du personnage. Mais dans celui-là, le Joker tue, en fait, il tue même souvent. Et tu vois, ça fait un peu chier Denis O'Neill de ne pas pouvoir le faire. Et t'as un autre titre, en fait, qui va faire en sorte que DC va vouloir faire cette série autour du Joker, c'est justement Brave and the Bold. Donc la série team-up où c'est Batman qui sert de personnage et on met quelqu'un avec lui. Et dans le numéro 111, qui est donc en 74, on est juste un an après, c'est forcément le Batman qui fait équipe avec le Joker.
Et ça aura d'ailleurs été une des plus grosses ventes de Brave and the Bold.
C'est ça. Et donc,
ce qui aurait soi-disant poussé DC à se dire « Ah ben tiens, en fait, les gens sont super intéressés par le Joker, il faut faire une série de Joker. »
Bah, en fait, O'Neill ne sait plus trop pourquoi on fait une série de Joker. Il sait juste qu'un jour, t'as eu, je crois que c'est Julius Schwartz, donc super éditeur de DC, c'est un de mes gars de cœur, qui en fait est arrivé et qui lui a dit voilà, on va faire un truc sur le Joker. D'accord. Bon, d'accord. Lui, il pose pas de questions à l'époque. Hein, c'est on te demande un truc, tu le fais. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'est née cette série. Et donc, cette série qui s'appelle The Joker, qui est assez courte, on voit une nouvelle série qui s'appelle The Joker aujourd'hui en 2021. C'est assez rigolo. Je sais pas si tu l'as lu ou pas.
Alors, j'ai lu des critiques dessus, mais je m'y suis pas encore attaqué. J'attends que ça sorte chez Urban.
Ouais, il y a des chances pour que ça sorte. Et j'ai pas lu tous les numéros sortis actuellement. J'en suis au milieu du quatrième, pour être franc. Je voulais réussir à le finir avant qu'on tourne, mais j'ai pas réussi. Et c'est vachement bien. Voilà. Et on retrouve un petit peu cette approche un petit peu Brave and the Bold. Puisque là, le Joker fait pas tellement équipe, mais en fait, plutôt que de suivre en fait le Joker, on va suivre le point de vue d'autres personnages, et notamment d'un personnage qu'on a pu voir dans ce magazine, qui est Jim Gordon, le fameux commissaire de Gotham. Mais on a aussi d'autres personnages qui vont venir petit à petit, et en fait, on a toute une galerie qui se crée, et en fait, le Joker n'est là que de temps en temps pour servir de menace de fond. Et donc, on retrouve à peu près la même chose, c'est-à-dire que deux titres qui ont existé qui s'appellent The Joker, ce sont les deux seuls titres The Joker qui existent en tant que série ongoing, en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire pas des mini-séries, genre, par exemple, un scénariste à succès qui décide de faire une histoire sur le Joker avec un dessinateur comme l'histoire Joker un peu connue, mais où on suit le point de vue de son homme de main. là, ben justement, on s'attarde jamais sur le Joker en lui-même, en fait. C'est toujours sur les autres. Et c'est assez intéressant, je trouve, de se dire que on essaye toujours de capitaliser sur le Joker, mais en fait, le Joker tout seul, en fait, on peut pas faire d'histoire avec lui. Je sais pas ce que t'en penses.
Ben, en fait, j'aurais tendance à rapprocher ça de l'horreur, des films d'horreur. Mmh. Tu vois, typiquement Alien, on peut faire un bon film effrayant, angoissant, à condition qu'on montre pas la créature très souvent. Il faut la garder pour des moments en choc et tout. Et j'ai l'impression qu'en fait, le Joker, c'est un petit peu pareil. C'est, tu peux pas vraiment le mettre en avant et faire une narration par lui ou montrer son quotidien parce que ça, ça le désacraliserait, quoi.
Ouais, et puis du coup, on verrait l'intérieur de sa tête et comment il fonctionne, et finalement, c'est plus effrayant de pas savoir comment il fonctionne.
Voilà, rien que le Joker, on connaît pas sa véritable origin story. Il y en a des tonnes. Même dans The Joker, là, de 75, dont on vient de parler, il y a un épisode où il s'invente une origin story, à nouveau.
Ah oui, bah ça a toujours été le cas. Hein.
Et ces hommes de main sont là en mode « Ah ben mince, on savait pas, patron, ouais, pardon, et tout. » Et il fait « Mais vous m'avez cru, bande de stupides ?» Et t'es là, tu fais « Bon, ben voilà, en fait, même en 75, on commençait déjà à te faire ça. C'est pas nouveau, c'est pas The Killing Joke, c'est pas... » Non, depuis très longtemps, on te faisait le coup du « je m'invente des origin stories à toute part et tout ». Et c'est sûr que si tu enlèves ça au Joker, tu enlèves un petit peu de son côté bête mythique. Et donc, c'est un peu dommage. Même Joker d'Azzarello, au final, c'est vraiment à travers les yeux d'un homme de main.
C'est ça.
Arline de Stepanchevitch, tu traites encore Joker et sa relation avec Arline, mais c'est par les yeux de Arline. En fait, on n'arrive jamais vraiment à te montrer les choses par les yeux du Joker, parce que normalement, en théorie, il est tellement instable, fou, chaotique, que comment veux-tu pouvoir vraiment suivre une idée correcte, précise, et normalement, il n'a pas vraiment de plan, quoi. C'est un peu d'ailleurs les problèmes de The Joker War ou des trucs dans le genre, où on veut te faire croire que si, c'est un maître né, il a des plans, ouais, il est plus stratège que Batman.
T'as assez raison. Pour moi, c'est pas un maître stratégique, c'est un maître improvisateur.
Oui, voilà. Ou comme,
je dirais ça comme ça.
Comme te faisait F. Ledger, c'est le prince du chaos. Voilà. C'est toujours le chaos, tout ce qui va pouvoir... amener du chaos partout, que ce soit dans son camp, dans celui des autres, et ben il y est tenté, et puis voilà.
Mais du coup, ouais, c'est assez vrai ce que tu dis, que bah, du coup, le Joker est toujours plus effrayant, vu à travers des yeux de quelqu'un d'autre, et finalement, quand on n'est pas dans sa tête, puisque sa tête est un antre de folie, et en fait, c'est difficile de raconter une histoire, finalement, dans quelque chose qui n'a pas de raison, puisque... Bah, une histoire, normalement, pour qu'elle soit appréciable pour un lecteur, il faut quand même qu'il y ait une dose de rationnel, on va dire.
Tout à fait. Là, on est plus, d'ailleurs, dans un aspect plus comédie, grand-guillonesque, que du coup, dans quelque chose de vraiment criminel, horreur, et quoi que ce soit.
Bah, c'est ça, c'est pour ça que c'est vraiment l'époque où on l'appelle le clown prince du crime. C'est, le côté clown est encore très présent, là où aujourd'hui c'est plus un gimmick, finalement.
Ouais. Mais tu vois, le truc qui est marrant en plus, c'est que tu parlais tout à l'heure du Comics Code Authority, et t'as vraiment la sensation que DC a vraiment freiné les cas de fer, quoi, avec le Comics Code Authority. Parce qu'on est quand même en 75, t'as déjà Gwen Stacy qui est morte depuis quelques temps. Il y a de plus en plus de titres qui se permettent des choses, surtout chez Marvel.
C'est ça.
Et là, eux, au contraire, vraiment, avec ce titre, tu sens qu'ils étaient là vraiment en mode « Non, on n'ose pas trop y aller, hein, parce que de peur qu'on se fasse annuler ou qu'on se fasse censurer, on préfère vraiment y la jouer petit bras un peu. On va faire un titre comique et puis on verra bien si ça passe ou pas. » C'est limite un peu dommage par moment, tu te dis.
C'est ça, mais en même temps, t'as aussi ce petit rappel que des titres consacrés à un méchant, ou en tout cas un méchant dans un univers vraiment comic book, parce qu'à la même époque, on va dire qu'on a Dracula chez Marvel. Bah en fait, il n'y en a pas eu depuis très longtemps. C'était Kirby dans les années 50. Et je pense que tu as une différence entre utiliser Dracula, qui a des racines littéraires, en fait.
Ouais.
Marvel a souvent pu sortir ça, en fait, en disant « Ben non, c'est de la littérature. On va pas m'interdire d'utiliser des romans, c'est de la culture. » Donc, leurs titres un peu plus osés, ils viennent toujours de la littérature. Ils sortent Conan, ils sortent Dracula, ils sortent
les autres
monstres.
Ils avaient déjà fait
des
tests avec les magazines qui pouvaient passer le Comic Code Authority, à la différence des
Tandis
comics.
Tandis que là, bah ouais, en fait, DC se dit « Ben non, moi, je vais faire ça avec mon vilain à moi. » Ouais, tu es entre deux gestes, mais ils arrivent à s'en sortir quand même, quoi.
Mais c'est vrai que c'est marrant de voir qu'à une époque où la défiance était déjà un petit peu dans l'air du temps, DC, eux, voulaient absolument rester...
Bon, c'était pas non plus les tout derniers à avoir tenté de chatouiller le code, hein. Ils avaient quand même fait Speedy qui se drogue dans Green Lantern, Green Arrow, et c'était 70. On est 5 ans après, là, déjà.
C'est vrai. Et puis il y avait Swamp Thing aussi un peu, déjà, au côté horrifique, qui...
Ouais,
qui n'aurait pas
après
pu
c'est
faire
Moore, c'est un peu... Ah non, bah non, il y a... Tu... Excuse-moi, tu parlais de Lin Wayne et pas de Moore, je suis désolé.
Oui. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a des années, une décennie auparavant, tu pouvais pas le faire, Swamp Thing.
Non, bah, beaucoup de choses n'étaient pas possibles, et c'est déjà l'époque où, ouais, il y a un relâchement du code qui permet de faire beaucoup plus de choses. C'est-à-dire qu'on parle quand même d'une époque où on pouvait pas faire apparaître Catwoman. Il y a 10 ans auparavant, on parlait vraiment de ça.
C'est vrai.
Voilà, parce que le crime ne pouvait pas être présenté de façon désirable.
Alors que là, tu vois, pour amadouer un petit peu les potentiels lecteurs, dans les épisodes suivants, tu retrouves quand même The Creeper, Green Arrow, Black Canary,
oui.
Luthor, l'Épouvantail, Catwoman, toute la GLA, sauf Batman, et t'as même droit à Sherlock Holmes.
Ouais, ça c'était cool.
Ah ouais, il était bien barré cet épisode. Le Joker contre Sherlock Holmes, quand même, je m'y attendais pas.
C'est ça, ouais. Non, c'est le numéro 6 pour les curieux, c'est un super épisode. Mais donc, ouais, bah c'est une série qui a vécu assez peu de temps, mais qui, je pense, a bien vécu, en fait. Chacun des numéros reste quand même assez, assez mémorable.
Après, je sais pas si à l'époque ça s'est bien vendu. J'ai pas regardé.
Je pense que
c'est aussi une des raisons qui a fait que.
Oui, très clairement.
Que vu que ça n'a pas eu le même succès que Brave and the Bold, ils ont vite arrêté.
C'est aussi une période compliquée pour DC, hein, cette époque-là, puisqu'il me semble qu'on n'est pas loin de la DC Explosion, je crois. Oui, c'est ça.
Oui.
Si tu veux, en fait, DC va connaître un vrai gros problème. Qui s'appelle, enfin, ils vont avoir la DC Implosion, si tu veux, en 78. Donc, comme tu vois, on n'est plus très très loin,
ah oui.
Puisque quand le titre, on voit, tu vois, 76 pour le dernier numéro et le numéro 10 qui est sorti il n'y a pas si longtemps, puisqu'il a été longtemps annulé, en fait. Mm-hmm. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que DC voulait lancer plein de titres. Tu vois, devenir plus grand, en fait, tu vois, faire un peu une Marvel aujourd'hui et, bah, en fait, étouffer le marché. C'était une grande tentative qui s'appelle la DC Explosion. Y a plein de titres qui vont être lancés. C'est là que va commencer Firestorm, ce genre de perso, en fait. Et en fait, ça va un peu buter... pas forcément buter DC, mais ça va vraiment lui faire un grand grand mal, en fait, parce qu'il y a eu 2 années merdiques, en fait. 77 et 78, en fait, c'est des années avec très peu de ventes, parce qu'il y a du blizzard. Et donc, du coup, en fait, on ne peut pas distribuer les titres.
Ah ouais.
Pendant la période hivernale.
Oh,
c'est rigolo. DC était déjà avait déjà des supérieurs à l'époque, et en 78 ils leur ont dit les titres qui se vendent pas, vous les annulez. 30 titres en un mois annulés.
Pas mal.
C'est ce qu'on appelle la DC Implosion, ah oui, en référence à cette DC Explosion qui s'était lancée 4 mois avant. C'est ça, il y a... Il y a quoi, il y a qui s'est fait annuler, t'as Aquaman, Black Lightning, tu as Firestorm qui venait de se lancer, et il a pu arriver jusqu'à son cinquième numéro et il s'est fait annuler la gueule. Kamandi, Mister Miracles, les New Gods, en fait, c'est à ce moment-là qu'ils sont fait arrêter, en fait. Les Teen Titans aussi à l'époque.
Ah ouais.
Ouais, non, ça a fait très très mal et DC a mis quelques années à remonter. Et heureusement a pu dans les années 80 vraiment remonter la pente. Mais ouais, donc du coup là tu vois des titres avant cette implosion d'essai. Et donc du coup il y a aussi cette difficulté à faire des ventes dans ces années-là que souffre DC, et ça peut être aussi une des explications pour un arrêt un peu prématuré sur ce titre. Après. Voilà, c'est difficile de trouver une explication définitive, on va dire.
Oui, de toute façon, toute cette époque, c'était une époque où le milieu du comics, les coulisses des comics, c'était très peu documenté. Donc, bon.
On arrive à s'en sortir avec plein de gens qui font des recherches. Donc, les gentils messieurs de Tomorrow Publication, donc, par exemple le magazine, enfin la maison d'édition qui publie par exemple Back Issue, mais aussi plein de titres. De gros livres, par exemple, il y en a un complet sur la DC Implosion que je possède et qui est fabuleux, parce qu'il est plein d'anecdotes et en fait de gens qui racontent. En fait, on a vraiment été voir les gens, ils ont raconté eux-mêmes, en fait. Ouais, non, c'est ils font un travail de dingue. Et donc voilà, je suis content, en fait, qu'on ait pu parler un peu de cette époque. Toi, moi,
attention, SN Parod va essayer de vous. SN Parod essaye de vous faire lire des livres où des histoires où il n'y a pas d'image. Hein. Faites gaffe, c'est dangereux. Hein. Des comics sans images, des livres, ça s'appelle.
Si, mais il y a des photos dedans. Mais ouais.
Tu essayes de nous avoir.
C'est vrai.
Après, on va devenir cultivé, attention.
Oh, loin de moi l'idée de vous culturer. mais voilà, non, c'est une. En tout cas, moi, je suis très content d'avoir pu parler un petit peu de cette époque par le biais de ce numéro. Je suis content que t'aies apprécié le découvrir,
parce que
moi, c'est des choses que j'adore découvrir et enfin, je fais ça très régulièrement. Et j'espère que toute âme un peu charitable qui viendrait à nous écouter.
Surtout qu'encore une fois, c'est des produits qui sont pas forcément très trouvables en VF, mais en VO assez facilement. Mmh.
Mais DC a une politique de réimpression. Ouais, il y a une politique de réimpression de certains qui est vieux matériel qui est assez sympa. Là, par exemple, chez moi, tu vois, j'ai toutes les histoires de Superman en VO de 1938 à 1943. Je les ai toutes. Je sais pas, j'aime bien. mais ouais, donc du coup, le but un petit peu, on va dire, de ce podcast, avoué, donc déjà, c'est de raconter des histoires que sans doute vous ne lirez pas de vous-même. Donc c'est pour ça, ça me gêne pas trop de vous les spoiler, en fait. Et de vous faire découvrir déjà une histoire qui, j'espère, sera sympa. Peut-être qu'un jour, on tombera sur des moins sympas, on ne sait pas, on verra. Mais aussi, via ces numéros, en fait, de parler ensuite, peut-être de l'histoire un peu plus grande des comics. Donc de raconter une histoire et ensuite de raconter l'histoire derrière l'histoire. Et c'était de l'impro.
Eh bien, mission accomplie, monsieur SN.
Eh bien, merci. Et en tout cas, tu m'as grandement aidé, pour le coup.
Mais de rien.
Voilà.
J'ai fait des craques d'ides.
C'est ça. J'espère que ça t'a plu.
Ah oui, vachement.
Ouais. Bon, de toute façon, t'étais revenu alors que t'étais déjà venu, donc on va partir du principe que tu n'es pas maso et donc que tu ne t'infliges pas ça non plus.
Qui sait.
Ah ouais, allez. Ouais, c'est SN, pas SM.
Ah merde. Une lettre près, ouais. Merde. Je me suis trompé de chatroom, pardon.
Ah mince, c'est à côté de chatroulette. Mais donc voilà, bah, ce sera un petit peu la... le mot de la fin, on va dire.
C'est
un très mauvais mot de la fin. C'est un très mauvais mot de la fin. Mais voilà, bah écoute, c'est les aléas du direct et bah, le Joker serait d'accord. Quand on a fait une blague, et ben finalement on s'y attache et on l'assume. Voilà. Donc bah on va finir un petit peu là-dessus. Éventuellement, tu peux nous dire ce que tu fais en ce moment si tu veux, mon bon Wolf.
Alors, en ce moment, je ne suis pas à la Hacienda de Mr. Joker. Non, je suis en train de travailler sur un Marvel Encyclopédie sur Teresa Parker, la sœur de Spider-Man, point d'interrogation.
Tout à fait.
Je suis aussi en train de vous préparer des j'ai lu des comics.
Mm-hmm.
Et je m'attelle à un énorme Marvel Encyclopédie en plusieurs parties qui reviendra sur... Toute l'histoire des Ghost Rider et de tous les Ghost Rider. Donc c'est pas mal de boulot.
Ouais, je crois que tu m'en avais déjà parlé de celle-là.
Oui.
Tu m'en avais déjà parlé de celle-là, des Ghost Rider. J'ai des souvenirs. Mais ouais, non, bah, ce sera super cool. Mais du coup, quand tu dis vidéo très très longue, j'ai l'impression que ça va être très 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 long.
Oh oui, je pense que ça va bien nous occuper une partie de l'année. Je vais la faire parties et ça sortira assez fréquemment pour essayer de proposer du contenu plus régulier, peut-être plus qu'une fois par mois sur ma chaîne, on va voir. Et puis, et puis voilà. Et toi, qu'est-ce que tu nous prépares ?
Alors, bon, bah, normalement, je fais pas ça, mais bon, on va dire que c'est le premier épisode, allez. Oui, j'ai plusieurs petites choses sur le feu, donc on va continuer les 10 comics d'une décennie. Ça tombe bien, je suis en train de faire les années 70. Mais on n'y retrouvera pas The Joker, pour le coup. J'ai d'autres petites choses de prévues. Ma toute première émission, qui s'appelle Comic Story, normalement, va revenir, et de façon régulière.
Ah.
Voilà, j'ai plein de petits sujets qui sont en cours. Et là, notamment, je suis en train de travailler sur les What If, les Imaginary Stories, les Elseworlds, et tout ce genre de choses.
Oula. Chargé.
Voilà. Chargé, mais figure-toi que ça avance bien.
Tant mieux.
Il y a peut-être même moyen que ça sorte en septembre, tu vois. Voilà, et un petit ma collection comics sur Jurassic Park, éventuellement.
Oh.
J'ai eu la novélisation du film assez tôt dans ma jeunesse. Et bon, j'ai toujours voulu être archéologue, je ne l'ai jamais caché. Et aussi, peut-être qu'on va parler de BD franco-belge pour une fois sur ma chaîne.
Que de teasing.
Voilà, je vais peut-être me lancer dans une chronique régulière sur ma série de BD franco-belge préférée. Voilà. Mais on restera principalement comics.
On sera au rendez-vous.
Eh ben, moi aussi, je serai là quand il faudra, dès que tu sortiras quelque chose. Voilà. Et puis donc, bah, c'est un peu la fin finalement de cette émission, qui, j'espère, vous aura plu. En tout cas, nous, on s'est bien amusé à la faire. Et n'hésitez pas à lire des comics, parce que ça, c'est super cool. Et aussi à en parler. Et si possible, de façon sympathique. Voilà, ça sert à rien de dire du mal des autres. Bouf. en tout cas, Wolf, encore merci d'être venu. C'était super sympa.
Et puis, merci à toi de m'inviter.
Bah, de rien. À une prochaine. Et puis, de toute façon, des invités risquent de revenir à un moment ou à un autre. Donc, sache que tu es toujours le bienvenu. Où que tu sois, que ce soit en vidéo ou en podcast.
Avec plaisir.
Voilà. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mission Comics. Salut à tous.
See ya. Thank you.
Destination Comics.